Et bonjour à tous, bienvenue dans le Paris Central Show. On a surpris Drias en train de se rassasier, manque de peau pour lui. On espère que tout le monde va bien dans le chat. Comment tu vas, Z, pour commencer?
Ça va, tranquille, tranquille, et toi, tonton?
Bah super, bah on se retrouvait aujourd'hui pour un sujet un petit peu spécial. Je sais pas si tu as vu fleurir cette rumeur un peu farfelue, mais Luis Campos serait pisté par Chelsea pour être le nouveau DS. Et il y a déjà eu une offre de Boeli pour Campos avec un certain salaire s'il accepte de se libérer du Paris Saint-Germain. Alors, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai d'abord été très surpris. Puis, je me suis dit que Boeli, franchement, il commence par ça. Puis, il annonce qu'il veut acheter un club satellite au Portugal. Pourquoi tu n'as pas acheté le PSG directement, Todd? Pourquoi tu t'embêtais à acheter Chelsea? Je trouve ça un peu bête. Mais tout d'abord, tu en penses quoi de cette rumeur pour commencer?
Bah, c'est le flou intégral. Après, on apprend que effectivement Campos n'est pas genre son contrat n'est pas fixe, et puis mais ça, en soi c'est normal, hein. Il faudrait que Chelsea rachète les années de contrat que Campos a, comme en fait tout font comme un joueur, et effectivement disposé à le payer 8 millions d'euros. Bah, après c'est je sais même pas comment, que penser de ce Chelsea. Honnêtement, ils ont acheté je ne sais pas combien de centraux, y compris des très bons. Ils ont même acheté un Gvardiol pour l'année prochaine. Enfin, elle est sortie de nulle part. Après, elle a été relayée partout, hein. Elle a été relayée sur RMC, sur machin, sur bidule, sur Twitter et consorts, bien sûr, mais aussi sur des médias officiels. Donc, il y a eu quelque chose. Qu'en penser, c'est difficile à dire. La question qui resterait peut-être, c'est qu'est-ce que ça voudrait dire s'il part? Mais bon, voilà.
Déjà, il y a une vraie question à se poser. Je veux dire, quand tu regardes Chelsea, qu'est-ce qui s'est passé cet été? Tu parles d'un club qui a dépensé pas loin de 300 millions d'euros sur le mercato entre les arrivées de Koulibaly, de Wesley Fofana, de Raheem Sterling, de Aubameyang, de Cucurella, qui est aussi quand même le piston le plus cher de l'histoire, quoi qu'on en dise. Chelsea a vraiment mis l'argent sur le mercato à la demande de Tourelle pour le virer 7 jours après. Donc là, tu dis, il y a peut-être un besoin réel du directeur sportif, parce que
Oui.
tu peux pas dire à ton coach, c'est toi qui gères le mercato, tu es la pierre angulaire de ce projet sur le niveau sportif, et arriver et te virer 7 jours après le mercato que lui-même a fait. En
Mais
sachant que tu t'es brouillé avec lui parce qu'il n'a pas voulu de Cristiano pour qu'il prenne Aubameyang, mais tu le vires quand même. Alors que si tu l'avais anticipé, tu aurais pu te dire. Bah, moi, je vais faire tel mercato, Tourelle ne veut pas, on est sur un nouveau projet. Bah, écoute, Tourelle n'est peut-être pas le coach le plus adapté, tu le vires avant le mercato. C'est déjà plus cohérent, non?
Au niveau de la cohérence, Chelsea, faut pas chercher. Enfin, c'est complètement illisible ce qui s'y passe à tous les niveaux, quoi. Maintenant, par rapport à ce que tu disais, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il y a une première révolution en fait qui a eu lieu avec Manchester City, où c'est la première fois en fait où on a vu apparaître la notion de directeur sportif. Parce qu'avant, en Angleterre, c'était vraiment le manager qui faisait tout, le modèle étant Ferguson et
Culture à
puis Van Gaal
l'anglaise,
de
ouais.
l'autre côté, etc., etc. Et il y a une petite révolution, et effectivement, le directeur sportif revient un petit peu à la mode depuis quelques saisons en Angleterre. Maintenant, prendre un directeur sportif, à la limite, ils le prennent en décembre, si tu veux, mais le prendre en octobre, tu vois, je veux dire, il va faire quoi? Il va jouer sur quel levier? Il va choisir son coach, mais ça ira pas loin. Puis après, le marché des coachs, enfin, ils vont aller
Et
chercher qui?
encore, le coach a déjà été choisi.
Ah, ils ont déjà choisi le coach?
Ouais,
Ah,
c'est
pardon.
Graham Potter de Brighton qui va reprendre le
Ah
poste.
oui,
Donc
ok, d'accord,
tu te
j'avais.
retrouves à licencier Tourelle, à payer les indemnités de contrat de Tourelle, à faire la même chose à Brighton pour récupérer Graham Potter. Et en plus, tu vas aller chercher un DS. Enfin,
Il n'a pas choisi ton coach.
c'est ça, que n'a pas choisi ton coach. Et tu veux un DS qui choisit ses coachs.
Je pense qu'à l'arrivée, cette rumeur, il faut pas la prendre au sérieux, tout simplement parce que Campos, de lui-même, je vois pas pourquoi il irait, quoi. Quel intérêt pour à part peut-être le fait d'aller en Angleterre, mais quel intérêt pour un directeur sportif d'arriver dans un, pardonnez-moi le mot, mais dans un bordel pareil, parce que c'est complètement illisible. La ligne politique, tu as l'impression d'avoir un président omnipotent qui s'est acheté un joujou, qui avait son joujou qui était Thomas Tuchel, qui lui dit: ah bah tiens, tu veux la belle voiture, et bah tiens, je te donne la belle voiture. Puis finalement, il aime plus son joujou, donc il le jette et il achète un nouveau joujou. Et qu'est-ce que va faire un directeur sportif là-dedans? Le mec qui signe, bonne chance à lui, quoi. Tu vois, je veux dire, avec ce président-là, quelle est sa marge de manœuvre? Alors, en plus, bon, déjà, comme je disais, on n'est plus en mercato, mais la marge de manœuvre, elle est quasi nulle. Donc, je pense qu'un Campos, qui est quand même un mec, un fin connaisseur de football, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, des choix, les machins et trucs, c'est un vrai connaisseur de football. Je pense qu'il a analysé ça avec encore plus d'acuité qu'on est capable de le faire, et je vois pas pourquoi il accepterait, tout simplement, quoi.
C'est le but des rumeurs, hein. Je veux dire, quand tu regardes le début de saison du PSG, la presse, la sensation, doit quand même pas mal s'embêter. T'as pas grand chose à dire, t'as pas beaucoup de scandales à traiter du côté du PSG, donc au final tu les crées pas mal, les scandales cette année du côté du PSG, vu que sur le terrain t'as pas grand chose à dire. Je veux dire, attends, t'imagines que quand même on gagne 5 à 2 Montpellier, on joue bien, il y a vraiment aucun moyen de se plaindre. Et les mecs arrivent à te faire émerger une polémique de pénalty parce qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent, en t'expliquant d'un coup que ouais, mais en fait, c'est parce que Mbappé, quand il a prolongé, il voulait que Neymar parte, et que du coup, ben, Neymar n'est pas parti. Donc du coup, ça va être la guerre des clans. Ben non.
Après.
Et la presse a sensation, il faut dire ce qui est. Elle devait se régaler des dernières années au PSG quand tu voyais ce qui s'y passait. Tu n'avais même pas besoin de mentir. Tu avais juste à traiter sur des faits ou des rumeurs. Et ça s'enflammait parce que tu disais, de toute façon, c'est le PSG, donc forcément, ça part en couille. Alors que maintenant, t'as les résultats sur le terrain, t'as un groupe sain, t'as quoi te mettre sous la dent quand t'es journaliste de sensation.
T'oublies un événement particulier quand même, qui était les images de Kylian Mbappé à l'entraînement qui tirait une gueule de 5 km. Et inévitablement, tous les observateurs, et nous compris, enfin, on n'est pas, et donc les journalistes encore plus, sans doute, l'ont remarqué et se demandaient, mais qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi? Etc., etc., etc. Et surtout qu'il n'y a jamais eu d'explication sur le pourquoi du comment. Donc, à partir du moment où il y a la moindre petite amicroche, inévitablement, elle allait être liée à ça. Après, pour Campos, pour la rumeur Campos, c'est un peu différent. Tu sais, c'est pas, enfin, ça a été relayé par trop de sources différentes pour n'être que une invention de journaliste qui veut. Je pense que ce qui est probable, si tu veux, si on veut l'interpréter de manière légère comme ça, c'est juste que le patron Todd a envoyé une pierre dans l'eau pour voir si ça faisait des vagues, le ripple effect, est-ce que machin truc. Peut-être qu'il est allé aussi loin qu'à faire la proposition, mais voilà. Oh yo!
Et bonjour Simbad, comment tu vas?
Salut les gars, comment vous allez?
Bah, super bien, ça tombe bien que tu sois là. On était en train d'évoquer justement la rumeur Campos à Chelsea. On a un peu évoqué le fait que Chelsea a eu un mercato probablement rocambolesque avec des sommes dépensées faramineuses, peut-être du PIB du Yémen. Et en même temps, paradoxalement, tu vires le coach qui a fait ce mercato incroyable 7 jours après. Et peut-être que si tu avais eu un DS, peut-être que tu aurais mieux géré ce mercato. Qu'est-ce que tu en penses, toi, pour commencer tout ça, Simbad?
Déjà, salut Tonton, salut Z, j'espère que vous allez bien les gars, salut à tous ceux qui nous écoutent en ce moment ou en rediff. Un petit mot sur Chelsea, c'est vrai que ça n'a ni queue ni tête finalement. Tu sens que le départ d'Abramovic a fait bousculer pas mal de choses, tu sens que le départ de Marina Granovskaya en tant que DS a fait bousculer pas mal de choses également. Tu sens que ça a été un véritable séisme qui a réussi à traverser Thomas Tuchel, mais qui finalement... apparemment, le cas Ronaldo aurait fait beaucoup de mal à la direction de Chelsea. Todd Boehly, l'Américain, lui, voulait ramener Ronaldo, tu sais, par rapport à la franchise, ramener quelque chose d'impactant. Thomas Tuchel, lui, n'en voulait pas. Donc, à la fin du mercato, ils ont décidé, Todd Boehly a décidé de s'en délester. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre cette histoire, dommage pour lui. Par rapport à ce qu'il proposait, même si c'était un peu dans le creux de la vague, je pense que comme chaque coach, on se rappelle que Klopp a failli être viré au bout de la première saison. Il y avait eu des Klopp out dès le début, le mec qui prend la Ligue des Champions. Je trouve ça un peu dommage qu'il soit viré, mais après, concernant Luis Campos, moi je n'y crois pas, je ne pense pas qu'il partirait maintenant. Je pense que le projet du Paris Saint-Germain colle à ce qu'il demande. Il est dans un club qui est puissant, qui lui permet également d'être avec son club du Celta, qui lui permet d'avoir une mainmise assez énorme quand tu arrives à faire plier Nasser Al-Khelaifi en ne recrutant pas des Dembélé, des Pogba, quand tu arrives à ne pas prendre Zinedine Zidane et que tu arrives à imposer une certaine idéologie. Ça m'étonnerait qu'il parte au bout d'un an pour 8 millions. Je pense qu'il a au PSG tout ce qu'il peut désirer. Tu ne fais pas plier Nasser El Khelaifi sur Zidane pour ensuite te barrer. Moi, ça me paraîtrait complètement illogique. Ce n'est pas un DS qui reste non plus 10 000 ans dans un club. Ça, on le sait également. Il a fait quoi? 3 ans, 2 ans à Lille, 3 ans, 4 ans à Monaco. Donc, on sait qu'il va pas rester là éternellement. Mais de voir se partir là au bout d'une saison ou même à l'hiver, ça me paraît complètement invraisemblable. Donc voilà. Moi, je ne me fais pas trop de soucis. Après, on est à l'abri de rien. On sait que ça peut aller très vite également, comme Thomas Tuchel a été viré très rapidement. Mais les voir eux faire une offre démentielle maintenant, ça me paraîtrait assez dingue.
C'est surtout, oui, comme tu l'as évoqué déjà, Campos vient d'arriver il n'y a pas longtemps, on lui a donné les clés du camion, il a pu imposer Galtier alors que bah, Nasser voulait Zidane, il a pu récupérer les joueurs que lui voulait plutôt que récupérer les stars sur lesquelles on était depuis des mois et qu'on pensait tous signer, comme Pogba, comme Dembélé, comme tu l'as dit si bien. Non, en soi, si Campos part Z en DS, j'ai pire comme idée, je propose Basto, comme ça on n'aura que des joueurs aigris. Mais non, blague à part, il faut dire ce qui est. Campos, si tu te mets uniquement du point de vue de Chelsea, tu te mets uniquement du point de vue de Chelsea, ça pourrait avoir un sens dans le sens où bah, il a déclaré qu'il voulait refaire fonctionner l'académie, retourner à partir de jeunes joueurs à fort potentiel. Campos, ça a un sens. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu fais ça en choisissant le coach avant de choisir le DS, en sachant que tu sais que Campos, il veut imposer son coach. Il fait partie de ces DS qui, s'il choisit pas son coach, ça se passe pas super bien. Donc du coup, je vois pas l'intérêt de ramener et Graham Potter d'un côté, et Luis Campos de l'autre, et Ted Boehly, qui seront trois décisionnaires différents. Je sais pas pour toi, mais ça va me rappeler, tu sais, un peu le PSG avec Nasser, Pochettino et Leonardo. Ils veulent tous faire leur mercato, et au lieu de tirer tous ensemble dans la même direction, ils ramènent chacun leur joueur, et c'est la guéguerre de merde.
Et en plus, il n'y a pas de mercato là. Hein. Le mercato, il est fini. Hein.
Bah oui,
Juste
en plus.
voilà, un petit détail, quoi.
C'est vrai, mais c'est pour ça que moi je n'y crois pas forcément. Tout a l'air complètement alambiqué. C'est une rumeur qui sort, enfin, je vais pas dire de nulle part. Si elle sort, c'est qu'il y a une raison, comme tu la disais. Si ça fait une, deux, trois, quatre, cinq sources, c'est que c'est pas qu'un feu de paille. Mais de là à ce que la piste soit vraiment crédible et que on ait des rumeurs qui grossissent, moi personnellement, je n'y crois pas. Je ne pense pas que Campos va partir. Encore une fois, le gars est dans un club où il a le, comment on appelle ça, il a le matériel de ses ambitions. Il a de quoi pouvoir aussi réussir ce qu'il veut. Il a réussi à imposer sa patte. Apparemment, il est déjà en train de préparer le mercato d'hiver, en train de cibler certains postes. Donc moi, le voir partir dès maintenant, ça me paraîtrait complètement fou, illogique dans les deux sens, tant pour le PSG de le laisser partir que pour Chelsea de faire grossir une offre et de le ramener maintenant. Pour moi, je pense qu'on aura vraiment beaucoup de mouvements, soit sur la fenêtre de la trêve hivernale. Je pense qu'il pourra se passer beaucoup de choses à cette période-là, parce que après la trêve de septembre, pardon, après la trêve internationale de septembre, tu n'auras plus aucune coupure jusque la Coupe du Monde. Dans ce cas-là, il faudra bricoler pendant quasiment 2 mois et demi. Et donc, pour moi, s'il y a des mouvements, ça se passera plutôt sur cette fenêtre-là, avant la grosse coupure Coupe du Monde. Mais sinon, ça me paraîtrait assez dingue. On a vu sur l'équipe que Luis Campos serait prêt à donner du temps à El Shaddai, Bichabu, sachant que Kimpembe a été blessé, qu'il y aura la coupure Coupe du Monde, que certains joueurs ne seront pas totalement frais physiquement. Donc moi, je le vois mal partir maintenant après des choses qui sortent dans la presse. On sait qu'il a un réseau, même vis-à-vis des médias, où il arrive à faire fuiter ce qu'il veut faire fuiter. Donc si ça sort dans la presse et que d'un autre côté on nous dit que Chelsea s'y intéresse, moi je n'y crois pas personnellement.
Mais tu soulèves un point intéressant, Simbat. C'est en effet avec cette trêve hivernale qui va être super longue et cette rumeur qui sort maintenant, qu'elle soit. Alors, comme tu vois, comme on en parlait tout à l'heure, enfin, c'est soit effectivement, j'avais même pas pensé que ça peut être Campos qui le fait pour un agenda qu'on ignore, que c'est Campos qui ait fait monter le truc, ou sinon que effectivement de Chelsea il y ait eu une approche ou quelque chose. Enfin, il y a clairement quelque chose, mais indépendamment de ça. Maintenant que c'est sorti en septembre, on risque d'en rebouffer en novembre, en fait. On risque d'en rebouffer en novembre, qu'il y ait des trucs dits ou qu'il n'y ait pas des trucs dits. Alors après, on peut être dans la panacée, tout va bien à Paris, le fond de jeu est trouvé, etc., etc. Et là, on s'évite tous les trucs. Mais Paris étant Paris, comme tu le disais tout à l'heure en début de live, cet événement qui a une source et on ne sait pas laquelle, pourra rejaillir et devenir, enfin, limite Campos pourrait être obligé de se positionner par rapport à ça au mois de novembre, à l'approche du mercato hivernal, parce qu'à ce moment-là, l'enjeu, effectivement, faire revenir un DS, surtout si ça s'est mal passé avec le nouveau coach, enfin, il a peut-être pas une folie près, hein, le nouveau propriétaire de Chelsea, il va peut-être reprendre un nouveau coach en décembre, hein, vu la manière avec laquelle les choses se passent, on peut pas l'exclure. À ce moment-là, effectivement, ça pourra devenir faire un petit peu de bruit et devenir un peu gênant, quoi.
Bien sûr, et puis tu sais que Chelsea est dans besoin d'un DS, donc du coup, bah, pourquoi tu parles pas de Mark Edwards en premier qui est disponible? Pourquoi tu parles pas de Leonardo qui est disponible? Pourquoi tu parles pas d'autres DS? Et pourquoi tu vises tout de suite un qui est déjà en poste et qui, pour le coup, est en poste depuis récemment?
Mais il y a une espèce de relation un peu ambiguë entre le PSG et Chelsea sur le mercato depuis plusieurs années.
Depuis que Touré est parti, tu veux dire?
Même avant, faisant David Luiz qui fait la navette, on a, il me semble, Alex qui vient de là-bas, si je ne dis pas de conneries. On a une espèce de relation un peu bizarre avec eux où, même d'un point de vue européen ou global, si on prend même la Ligue des Champions in extenso, eh ben, on voit qu'on a une relation un peu bizarre avec eux. Là, Tuchel, il s'intéresse beaucoup à Marquinhos, il s'intéresse beaucoup à Kimpembe. Il y a eu les rumeurs sur Neymar, maintenant les rumeurs sur Campos. T'as l'impression que en fait on est un peu leur, je sais pas, leur saint graal, ils veulent absolument être le PSG et c'est bizarre. Maintenant moi j'ai envie de leur dire, écoutez les gars, si vous êtes fans, et ben venez, on vous donne un maillot dédicacé et puis comme ça vous aurez ce que vous voulez. Plus sérieusement, il y a une espèce de relation un peu bizarre entre le PSG et Chelsea. Et je ne sais pas, elle est due à quoi. Je ne sais pas à quoi elle est due. Et le fait que ce soit Campos qui sorte et non pas un autre, tu sais, ça ne m'étonne même pas. Tu as eu la rumeur Kimpembe qui a grossi. Tu avais Marquinhos l'an dernier, il y a même Thiago Silva que j'ai oublié, qui est parti là-bas également. Et à chaque fois qu'il y a un joueur du PSG qui était plus ou moins sur le départ, il y avait le nom du Paris Saint-Germain, du Chelsea, pardon, qui était associé. Donc finalement, ça me permet aussi de dire que cette équipe de Chelsea, ou plus ou moins ses têtes pensantes, a un prisme Paris Saint-Germain assez farfelu. Et tu te dis, écoutez les gars, c'est assez gênant de voir que Chelsea, à chaque fois, ils ont un problème avec le PSG, où ils ont besoin de venir récupérer le joueur, le DS, le défenseur, l'attaquant, le milieu, et le coach. Et en fait, tu te dis, finalement, qui s'intéresse à Campos, c'est dans la continuité de ce qu'ils font depuis des années, finalement. C'est un peu dans la continuité. Et au final, ça ne me choque même pas. Et puis, après, Campos, est-ce qu'il partira pas? Mon avis sur la question, c'est non, il ne partira pas. Je ne le vois pas partir. En tout cas, cet été, cet hiver. Mais après, on a l'abri de rien.
Mais il y a une logique, je veux dire. Quand tu me parles de d'où vient l'attrait. Alors, il y a Attila qui nous dit en gueulant, Boilly voulait racheter le PSG, mais il n'avait pas assez. Il n'avait pas tout à fait tort. Frédéric, tu cherches un DS. Non, blague à part. Si tu prends les faits, Boilly, c'est un Américain. Le PSG est le club numéro un aux États-Unis qui a fait un partenariat avec Jordan. C'est le club qui fait le plus de bruit là-bas. Donc, Boilly, quand il arrive des États-Unis en Europe, peut-être qu'il se dit, ce que fait le PSG, c'est pas mal. Viens, j'essaye de donner plus d'argent que ce que donne le PSG pour récupérer ça. Dans le sens où Campos, on parle d'un mec reconnu, on parle d'un mec qui a été scout au Real Madrid, on parle d'un mec qui a prouvé ses mandats à Monaco et à Lille, qu'il est capable de recruter des très très bons joueurs qui peuvent figurer dans le top mondial sur les 10 années suite au moment où tu l'as acheté. Il y a une histoire de... Moi, ça me semble assez logique. Le mec se dit, ça a l'air de marcher ce qui se passe, et pourquoi j'essaierais pas de l'appliquer avec la sauce à moi aussi, tu vois.
Mais pas avec le mercato. Enfin, le truc, tu vois, l'élément qu'on met pas, c'est la, qu'on met pas dans, je trouve, dans la réflexion, c'est la réflexion de Campos lui-même. Est-ce que Campos a l'intérêt d'aller là-dedans? Regarde la liste des joueurs qu'il y a. Il ramène une pépite, Campos. Elle fait quoi, la pépite? Elle est huitième dans la hiérarchie. Il ramène une pépite derrière. Elle est pas huitième dans la hiérarchie. Elle est 16e dans la hiérarchie. Enfin, tu vois, il y a un moment où je vois pas l'intérêt pour un DS. Si Leonardo qui était cité tout à l'heure, mais pour parce que le gros cachet, parce que etc. Mais mis à part le gros cachet, vu la manière avec laquelle ça a démarré et vu l'image qu'ils ont renvoyée cet été, je vois pas l'intérêt pour un DS qui a envie de construire quelque chose d'y aller tout simplement.
C'est comme on l'a dit, il y a un peu cette espèce de relation malsaine où Boilly veut placer ses propres pistes, où Graham Potter aura logiquement des demandes et où le DS aura ses propres pistes.
moi, je me dis, le Dest qui va signer là-bas et il va se mettre dans un nid de serpent qui va être pas facile à négocier. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que oui. Regarde, si on fait l'état des lieux, les Dest qui sont disponibles, il y a Leonardo, il y a
Edwards, vous en parlez, mais Edwards, c'est
il
mort.
A refusé Chelsea, apparemment.
Il n'y aura jamais. C'est pas dans la logique. C'est même Compos, tu pourrais peut-être, mais même j'y crois pas. Mais Edwards, c'est juste mort.
C'est surtout que moi j'entends que vous me dites que Campos pour vous c'est mort, c'est pas possible, c'est pas crédible pour Chelsea. Mais du coup, moi la question que je me pose, c'est pour conclure ce live, il nous reste 10 minutes, qui est le DS qui conviendrait le mieux du coup à Chelsea?
Bah, moi j'ai pas envie qu'il parte de Paris, mais par exemple, Antero Henrique, ce serait un très bon choix en l'occurrence.
Alors, moi pour le coup,
etc., par rapport à ce que. Vas-y, pardon, Simbad, je te laisse.
Non, mais j'avais rien à dire, j'en ai strictement aucune idée. Je ne connais même pas le nombre de DS qui sont en présence, à part ceux que vous avez cités très brièvement. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont sur le marché, mais que je ne connais pas. Donc, pour le coup, c'est vrai que Campos fait sens sur plusieurs choses, mais la crédibilité de la piste, elle est tellement, je ne vais pas dire faible, mais elle est tellement basse que je n'y crois pas. Donc, le meilleur choix pour eux, oui, ce serait Luis Campos. Mais le meilleur choix pour Paris, non, ce ne serait pas de laisser partir Luis Campos. Et on sait que Paris ne vend ou ne laisse jamais partir ses éléments forts, ou presque. C'est à part quand c'est Zlatan qui part gratuitement, Di Maria qui part en fin de contrat. Paris a vraiment été un club, et là, pour le coup, on peut applaudir, ne laisse pas partir ses éléments forts là-dessus.
Merci.
Comment ?
Applaudir, je sais pas. En fait, quand tu regardes les grands clubs, ils savent faire. Par exemple, tu prends City et il était prêt à laisser partir certains joueurs. Après, les joueurs ont choisi de rester. Mais une logique justement de t'enfermer dans une logique où tu. Mais après, on sort complètement du débat. Donc, mais la logique où si tu veux, tu t'enfermes et tu mets quelque part le joueur d'une certaine manière au-dessus de l'institution. Tu te retrouves avec un rapport avec tes joueurs qui n'est pas forcément celui que tu as envie d'avoir dans le cadre de construire l'équipe la plus compétitive possible. Donc il y a c'est bien de savoir garder ses joueurs, mais c'est aussi bien de savoir les laisser partir. Et la première partie, je suis d'accord avec toi, on le fait très bien. La deuxième partie, par contre, on sait vraiment pas le faire. Mais je t'ai coupé la parole.
Non, c'est bon, j'avais plus rien à dire de toute façon.
OK, mais voilà. Mais ouais, Vendre justement, juste pour aller dans ce sens-là, il y a un autre coach, mais on sort du sujet Campos, c'est Enrique. Son chapitre des ventes a été bon, un peu mitigé parce qu'il y a eu beaucoup de prêts, mais c'est justement lui, c'est quelqu'un qui n'a pas peur et qui pourrait nous faire franchir ce palier-là, justement, savoir vendre, même des joueurs à leur prime. Si tu trouves un autre joueur, que le joueur a envie de partir, en soi, ça devrait pouvoir être fait sans trop de problèmes. Et c'est une qualité qu'on n'a pas et que Enrique pourrait nous apporter.
Bah écoutez, je pense qu'on a quand même fait assez le tour du sujet. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter sur cette rumeur Campos à Chelsea, à part si vous voyez un petit truc à rajouter éventuellement au point de vue Chelsea, PSG ou même Campos, que je n'avais peut-être pas remarqué encore jusque-là.
Non, il pourrait juste ouvrir une cagnotte pour Todd Boehly, lui envoyer des packs de maillots du PSG dédicacés. Parce qu'apparemment, même tu sais, pour les têtes dirigeantes, apparemment, même les actionnaires, ils ont l'air d'être fans. Donc on peut leur envoyer un maillot de Neymar, de Marquinhos, de Kimpembe qu'ils n'ont pas eu. Et comme ça, ils seront contents.
Mais sur ça, tu avais raison. Donc, c'est possible qu'en tant qu'Américain, il est vu ce qu'a fait PSG, notamment avec Jordan, son implosion sur le marché américain, toutes les stars américaines qui emportent, et que ça lui ait donné envie, quoi.
Alors, j'avais pas vu ce commentaire de Romuald, qui est quand même pas mal, qui disait « Campos veut les pleins pouvoirs à Paris vis-à-vis de Antero, donc il a plutôt intérêt à faire sortir cette rumeur. »
C'est possible.
Oui, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais ça peut être un gros coup de bluff, histoire de raffirmer son autorité, de dire « Antero, c'est pas mon pote, il a fait son taf, c'est lui ou c'est moi ?»
Pour le coup, Antero a mieux fait son taf que Campos sur les cibles prioritaires de l'un et de l'autre. Antero, il a quand même fait un sacré bon boulot.
Bah, faut dire ce qu'il y a, Antero, 23 départs, je dis départ. Je précise parce qu'il y a vente et prêt, c'est pas les mêmes choses.
Mais ouais, même les prêts, réussir à les refourguer, c'est
voilà. Une prouesse phénoménale. Qui aurait cru en début de mercato que Icardi, Kurzawa et Herrera allaient quitter le club?
Non, mais surtout Kurzawa. On parle souvent d'Herrera, mais Kurzawa, sérieux, il n'a pas joué une minute de l'année. Et le mec, il y avait Galatasaray, Fenerbahçe et Fulham qui se battaient pour lui. On ne se rend pas compte de... Mais bref, après, on sort du débat, mais... pour moi, après, c'est pas une guéguerre parce que s'ils travaillent tous les deux dans la main, et bah, tant mieux pour le club. Mais sur les cibles prioritaires de Campo, sur les cibles prioritaires de Antero, celui qui a réussi à cocher le plus de cases, c'est Antero sur ce mercato. Bien que Campo, ça fait un très bon travail également.
Bien sûr.
Mais l'élément de la guéguerre, il y a eu toutes les déclarations de Galtier qui rappelaient les ventes de joueurs, etc. Et clairement, elle est là. Et ça va animer le truc. Après, le deal avec Enrique portait vraiment sur le mercato. A priori, Enrique allait dans un peu plus long, on veut voir. Mais bon, ça, c'est une histoire de demain. On n'y est pas encore. Et c'est une petite guerre de pouvoir. Mais au fond, elle est saine, cette guerre de pouvoir. C'est avoir des mecs qui se couchent, c'est pas ce que tu veux. Tant qu'ils arrivent à faire en sorte que ça tire, in fine dans le même sens et pour l'intérêt du club et qu'ils n'aillent pas jusqu'à s'aborder le jouet juste pour avoir le pouvoir, et à ce moment-là, une guerre de pouvoir, c'est pas mauvaise et elle pourrait réanimer un podcast futur, mais c'est un peu trop tôt pour la nommer, quoi, je pense.
Non, bien sûr, je propose que ce sujet, on le traitera un peu plus tard en live dans la saison. Je pense qu'on aura le temps de traiter plein de choses pendant cette saison. Pour répondre, dans la barre de commentaires, il y avait notre ami Angry Bird qui nous demandait si on faisait l'avant-match. Alors, pas aujourd'hui, parce que ça va pas.
À quelle heure le match?
Le match est à
20h45 ou 21h.
Alors, je vérifie tout de suite avant de dire une bêtise en direct devant tout le monde. Parce que c'est vrai que l'heure peut être éventuellement décalée. Et moi, j'ai un 21h Maccabi Haïfa PSG. Donc, non, justement, on se donne rendez-vous à 23h05 pour faire le débrief de ce match. Maccabi Haïfa PSG sur Paris Central à 23h05 pour tous ceux qui ont l'habitude. Merci en tout cas aux 125 personnes qui ont été présentes pendant cette émission. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous aider à référencer dans l'émission. Je pense qu'on n'est pas très loin des 60 que j'avais demandé dans le chat en rigolant pendant le live. J'ai d'ailleurs vérifié tout de suite votre performance dans le chat. Ah, on en a un 29. Un petit retour de Leonardo, ça va vous calmer et remettre des pouces. Blague à part, merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que le contenu vous a plu. Merci Simbad, merci Drias, merci à tous d'avoir été présents avec nous. Je vous dis à ce soir à 23h05 pour le débrief de Maccabi Haïfa PSG en live sur YouTube. À tout de suite et ici c'est Paris.
Merci tonton, ici c'est Paris.
Ciao.